Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que votre début de master se passe bien, que les cours sont intéressants. Donc, ça va encore devenir plus intéressant après, puisque vous allez commencer votre mémoire au mois de février. Donc, j'espère que vous allez faire le bon choix, en tout cas le choix qui correspond le plus à vos aspirations. Comme vous l'avez déjà vu, et là j'ai raté le début, mais vous avez une grande diversité déjà de projets possibles. Alors, les miens sont très différents de ceux, en tout cas, que je viens de voir chez Thierry Hans, notamment, puisque c'est de la recherche fondamentale. Les Namurois connaissent déjà un petit peu, les Louvainistes beaucoup moins. Je vais proposer un seul thème de mémoire cette année, mais avec plusieurs sous-thèmes, plusieurs projets possibles, avec un encadrement qui va concerner plusieurs doctorants et une postdoc. Donc, il y a possibilité évidemment d'avoir plusieurs mémorants, pardon, sur ce thème général. Alors, le thème général va concerner un poisson phare, notre espèce phare pour le moment, vous voyez là, que je vais dévoiler dans quelques secondes. Mais avant ça, pour laisser un peu le suspense, je vous dis déjà que plus d'informations sont visibles sur le site web du laboratoire, donc n'hésitez pas à y aller. Le labo, j'ai oublié de le dire, c'est le laboratoire de physiologie évolutive et adaptative, donc qui est à Namur et qui est inclus dans l'URBE, donc qui concerne également une unité de recherche qui concerne également Patrick Questemont, Karine Van Doenicke et Frédéric Delander. Chacun, on travaille un petit peu avec des perspectives qui nous sont propres. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé, de m'envoyer un email, c'est le plus simple. Et puis on organise une petite réunion. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Quel est notre principal sujet de recherche? Donc, c'est de la physiologie au sens large, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre le fonctionnement des organismes. Quand on dit fonctionnement, ça peut être à la fois au niveau biochimique moléculaire, ça peut être au niveau des cellules, de l'osmorégulation, y compris au niveau du comportement qui est pris vraiment. Donc la physiologie est prise au sens large. On essaye également de comprendre les interactions qu'il y a entre des perturbations de l'environnement et les organismes. Perturbations de l'environnement essentiellement au niveau écotoxicologique, donc l'implication de polluants aquatiques sur les organismes, comment ils vont pouvoir réagir face à ces polluants, soit de manière délétère pour eux, soit éventuellement s'acclimater, s'adapter et évoluer dans cet environnement perturbé par l'action humaine. Alors là, on peut déjà distinguer plusieurs types d'effets différents. Soit on va avoir des effets qui sont qualifiés de directs sur les premiers stades de développement. Donc on a des sujets de recherche qui essayent de comprendre les impacts de polluants et de perturbations de l'environnement pendant le développement embryonnaire. Soit on va travailler sur les adultes, donc on va essayer de rechercher les mêmes types d'effets, mais au niveau des adultes. Et alors, ce sur quoi on s'attarde beaucoup maintenant, c'est ce qu'on appelle les effets postposés. C'est-à-dire qu'on va modifier l'environnement pendant les premiers stades de développement embryonnaire, puis on ne va pas regarder tout de suite ce qui se passe, mais on va regarder plusieurs semaines, plusieurs mois. Pas plusieurs années parce que là les poissons ils vont pas résister, mais en tout cas plusieurs mois après l'exposition pour voir s'il y a des effets chez les adultes. Et alors in fine, sous certaines conditions, on peut même regarder ce qui se passe au niveau des générations suivantes, c'est-à-dire les effets qu'on appelle soit intergénérationnels, soit transgénérationnels de manière plus générale, donc le passage possible de modification à travers la reproduction sexuée. Alors on va regarder ce qui se passe à différents niveaux. Donc on a, comme je l'ai dit, il y a des niveaux moléculaires, des niveaux phénotypiques de l'organisme, comme le comportement, les traits d'histoire de vie, la biochimie, la morphologie, etc. On a historiquement une forte qualification en phénotype cellulaire, essentiellement en protéomique. Donc on travaille maintenant en collaboration avec une équipe américaine, mais on peut faire différentes choses en omique en général. Et alors ce qu'on essaye surtout de développer actuellement, ce sont les approches épigénétiques afin de comprendre les modifications phénotypiques et de faire un lien entre environnement d'une part, épigénétique et phénotype d'autre part. Et avec la question générale, est-ce que ça va influencer l'évolution des organismes rapidement, donc sur le court terme, mais également sur le long terme. Alors, pour ce faire, on étudie plusieurs espèces modèles. Je ne vais en présenter qu'une, c'est le Rivulus des mangroves, mais on travaille aussi sur le poisson zèbre. On commence à travailler sur un autre killifish africain, le turquoise killifish, et on a un peu d'expérience sur le lys killifish. Mais les thèmes de mémoire concernent cette espèce phare, qui est le killifish des mangroves. Alors pourquoi est-elle intéressante? Pourquoi est-ce qu'on travaille dessus? Parce que c'est la seule espèce de vertébré connue actuellement, avec une espèce cousine qu'on mettait en fait dans la même espèce avant, mais maintenant on vient de la séparer, donc c'est extrêmement proche phylogénétiquement. Donc c'est la seule espèce de vertébré à se reproduire toute seule, par autofécondation, donc c'est pas de la parthénogenèse, c'est de la fécondation, la reproduction sexuée. Donc on a des organismes hermaphrodites avec des ovocytes et des spermatozoïdes matures au même moment qui, enfin le spermatozoïde va féconder l'ovocyte. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que cet organisme a évolué dans son environnement naturel de manière à pouvoir vivre de manière isolée et se reproduire toujours de manière sexuée. Et le résultat de cela c'est quoi ? Eh bien c'est qu'on a dans la nature des lignées complètement isogéniques avec un taux de diversité génétique qui est proche de zéro, en tout cas sur base des marqueurs que l'on a étudiés jusqu'à présent. Et là, c'est le modèle idéal pour nous au niveau des vertébrés pour étudier les implications de l'épigénétique dans la détermination des phénotypes et dans donc l'histoire évolutive de ce poisson-là, puisque on annule complètement la composante génétique. Alors, pour vous montrer quelques photos, voilà le poisson à quoi il ressemble, je vais le montrer en gros plan après. Voilà sa zone d'habitat, c'est-à-dire dans les Caraïbes, depuis la Floride le plus au nord jusqu'au Brésil, avec toujours un féodé aux mangroves, mangroves rouges exactement. Donc voilà. Alors le poisson, le voici, ça c'est un mâle, donc il y a des hermaphrodites, je ne l'ai pas encore dit, il y a des mâles aussi. Les mâles, les voilà, c'est à peu près 10% de la population. Les hermaphrodites, les voilà, bon on les voit pas très bien ici, mais vous pouvez me croire sur parole. C'est 90% de la population. Et ce qui est intéressant, c'est que ces pourcentages vont varier en fonction des sous-populations, quoi. Donc, quand il y a des mâles dans la sous-population, on peut avoir de la fécondation croisée. Quand il n'y en a pas, les hermaphrodites n'ont d'autre choix que de se reproduire tout seul. Et alors, si je vous montre les mâles et les hermaphrodites, ça veut dire qu'il n'y a pas de femelles. Donc personne n'a jamais réussi à mettre en évidence la moindre femelle chez cette espèce. Alors, donc la question de base, c'est de comprendre les liens qu'il y a entre les mécanismes épigénétiques, la plasticité phénotypique et les interactions avec les perturbations de l'environnement à différents niveaux. Donc là, je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. Et il y a quatre grands thèmes de mémoire qu'on propose, mais encore une fois, c'est ouvert à la discussion comme dans les autres équipes. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Alors rapidement, en quelques secondes, je vous cite ces différents thèmes. Le premier, c'est mécanismes épigénétiques et traits comportementaux. Là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de faire un lien entre des modifications épigénétiques dans le cerveau, donc essentiellement de la méthylation d'ADN au niveau du cerveau, et ce qu'on appelle les traits comportementaux, c'est-à-dire en fait la personnalité des individus. Je ne vais pas m'étendre dessus, sinon je vais dépasser les 5 minutes, et je suis déjà à 8. Donc les traits comportementaux, en fait, c'est par exemple l'agressivité et l'audace. Il y a des individus plus ou moins agressifs, plus ou moins audacieux, et on sait qu'il peut, en tout cas c'est une hypothèse, avoir un déterminisme épigénétique qui va faire en sorte que les poissons auront une personnalité ou plus ou moins ou une autre personnalité. Voilà. Deuxième, effet des stress environnementaux pendant le développement, donc c'est ce que je viens déjà d'expliquer en gros, où là en fait on va partir de travaux qui ont déjà été réalisés, où on a déjà des évidences qui montrent que certains stress vont modifier à la fois le développement, mais à la fois l'adulte. Et donc l'idée, ce sera de compléter et d'aller plus loin, à la fois au niveau phénotypique, et à la fois au niveau moléculaire. Troisième, c'est hérédité épigénétique transgénérationnelle, où là, on va spécifiquement se focaliser sur le transfert de marques épigénétiques d'une génération à l'autre. En tout cas, on espère qu'il y en a, puisque ça n'a pas encore été prouvé jusqu'à présent chez cette espèce. Donc on va essayer de mettre ça en évidence, essentiellement au niveau de la méthylation de l'ADN et les liens donc qu'il peut y avoir encore une fois avec le phénotype. Et enfin le dernier, qui est un nouveau sujet qu'on démarre actuellement, on va d'ailleurs avec ma postdoc en Floride au mois de janvier pour prélever des individus, c'est essayer de comprendre les effets des marées rouges sur ce qu'on appelle l'adaptation locale de ce poisson, c'est-à-dire les modifications que cela entraîne qui vont différencier différentes sous-populations. Donc les marées rouges, ce sont des dinoflagellés qui produisent des toxines. C'est un grave problème à certains endroits de Floride, récurrent chaque année, maintenant en automne et au début de l'hiver. Et donc, l'idée, ce serait d'essayer de, premièrement, de caractériser la toxicité de ces toxines sur notre poisson, et alors d'aller plus loin au niveau de la compréhension des mécanismes d'action de cette toxine, au niveau moléculaire, au niveau phénotypique, avec une possibilité de faire du data mining et de la génomique comparée pour essayer de comprendre la plus ou moins grande sensibilité de cette espèce en fonction des cibles moléculaires. Voilà, donc ça c'est vraiment un sujet écotoxicologie. Voilà, donc pour vous dire aussi qu'en plus que de l'équipe namuroise, on a des collaborations aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande qui sont étroitement impliquées dans ces projets de recherche, donc pour lesquels vous pourrez être mis en connexion. Voilà, merci beaucoup, 10 minutes.